adoptée au Sénat. Elle y sera étudiée le 7 mai prochain. Deux sénatrices écologistes en sont à l'origine, Mathilde Olivier et Mélanie Vogel, qui répond à Corinne Manjour pour Vivre Ailleurs.
Au début de mon mandat, quand j'ai été élue, j'ai fait une grande consultation auprès des Françaises et des Français de l'étranger. Je me suis rendu compte que l'accès aux comptes bancaires faisait vraiment partie des problématiques principales que rencontraient les gens à l'étranger. J'en ai moi-même fait les frais quand j'ai été élue sénatrice, puisque quand j'ai été élue, je n'avais pas de résidence fiscale en France et j'ai voulu ouvrir un compte en France pour pouvoir verser mes frais de mandat. Et ça a été un parcours du combattant impossible. Et donc, j'ai voulu faire des propositions pour résoudre ce problème, parce que derrière les difficultés d'accès aux comptes bancaires résident des difficultés plus larges de pouvoir faire des opérations courantes de la vie quotidienne, toucher sa retraite, payer ses impôts, faire des virements, etc.
Le droit au compte en France garantit à tous la possibilité de détenir un compte bancaire. Pourquoi les Français de l'étranger n'exercent-ils pas ce droit, tout simplement ?
Effectivement, le droit au compte permet à toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte bancaire de saisir la Banque de France pour que la Banque de France désigne un établissement bancaire et impose que le compte soit ouvert. Le problème pour les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger, c'est que bien souvent, ils n'arrivent pas à la première étape qui est de demander l'ouverture d'un compte, parce que pour demander à une banque qu'un compte soit ouvert, très souvent la banque demande des informations ou des documents qu'on ne peut pas fournir quand on est à l'étranger. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir un refus de la banque, et donc ils n'arrivent pas à se saisir de la procédure de droit au compte à la Banque de France.
Certaines banques en France décident parfois de fermer les comptes des Français résidant à l'étranger sans les avertir. Pourquoi ?
En fait, la proposition de loi vise à résoudre ces deux problèmes majeurs qui s'imposent aux Français de l'étranger par rapport au compte bancaire. Le premier, c'est d'avoir des difficultés à ouvrir un compte. Le deuxième, c'est lorsqu'on a un compte et qu'on se le voit fermé de manière souvent abusive. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce sont des banques qui considèrent que c'est trop contraignant pour elles d'avoir des clients à l'étranger et qui donc décident de fermer le compte. Pourquoi elles font ça ? Parce qu'elles trouvent que c'est trop de travail de vérifier l'origine des fonds, etc. Et donc, elles décident de le fermer. Il n'y a pas de raison de penser qu'a priori, quand on est Français de l'étranger, il y a plus de risques qu'on soit dans des réseaux de criminalité organisée.
Qu'est-ce que vous proposez très concrètement ? Que propose le texte que vous avez déposé ?
Il y a deux propositions majeures. La première, c'est pour résoudre le problème d'ouverture des comptes. Et pour cela, nous proposons, plutôt que d'avoir cette procédure très lourde de droit au compte, nous proposons une chose simple, c'est de donner à la Banque Postale la mission de devoir donner aux Français résidant hors de France l'accès à un compte bancaire dans sa mission de service public. Ça, c'est pour l'ouverture des comptes. Pour les fermetures, nous proposons quelque chose qui concerne les délais dans lesquels les banques peuvent fermer les comptes. Nous proposons de doubler ce délai, de le passer à 4 mois. Aujourd'hui, on a un délai de 2 mois. Eh bien, il y a beaucoup de cas où un courrier à l'étranger n'arrive pas dans les 2 mois.
Cette proposition de loi sera discutée en séance publique au Sénat le 7 mai prochain. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue des discussions ?
Tout va se jouer au moment des débats en séance. Les élus des Français de l'étranger vont pouvoir exprimer le fait qu'il y a effectivement un problème. Rien n'est joué pour le 7. Si on est assez mobilisé, si les personnes qui nous écoutent contactent leurs élus et font remonter les problèmes, j'espère qu'on peut trouver une solution transpartisane à un problème quotidien.
La sénatrice Mélanie Vogel, elle répondait à Corinne Manjou. Ce sera tout à l'heure à 11h10 en temps universel sur RFI, l'atelier des médias avec Steven Jambeau qui nous parlera d'une table ronde qu'il a animée au festival Longueur d'onde à Brest en présence des représentants de plusieurs radios francophones publiques, des radios qui ont expliqué comment elles se positionnaient face aux géants de l'écoute en ligne. Parmi les intervenants, Erwan Gaucher, le directeur éditorial de l'application Radio France.
On avait un constat il y a 10 ans, 8 écoute de podcast sur 10 qui se faisait d'une émission ou d'un podcast de Radio France se faisait ailleurs. Et ça nous posait plein de problèmes, parce que on voit bien et on se dit rétrospectivement, on n'imaginait pas tout ce qui est en train de se passer, hein, il faut pas abuser, mais on sentait quand même que c'était pas une très bonne idée d'être à ce point dépendant de plateformes qui pouvaient tout à fait nous dire un jour, mais vous produisez tellement, ça nous coûte un fric fou en par exemple en serveur, etc. Maintenant ça va être ne serait-ce qu'1 centime par podcast pour l'hébergement. Vous imaginez quand on a un catalogue de 3 3,5 millions de podcasts et qu'on en produit plus de 200 chaque semaine, ce que ça pourrait donner. Et puis, on est sur des plateformes qui peuvent tout à fait décider d'un seul coup que, elles ont le droit de couper au milieu puis mettre de la pub. Puis d'ailleurs, de dire peut-être que tel ou tel contenu, ça leur plaît moyennement parce que quand même, vous parlez de choses qui nous plaisent pas. Et on voit que plus l'histoire avance, plus ce sont des scénarios qui deviennent crédibles. Donc on a décidé de lancer cette plateforme. Aujourd'hui, 60% des écoutes se font sur notre plateforme. On a envie qu'il y en ait encore plus, on n'a pas envie d'en sortir complètement, parce qu'on sait bien qu'il y a encore des gens qui nous écoutent à travers ces plateformes-là, mais on a envie de ramener tout le monde vers chez nous, ne serait-ce que parce que on a les risques dont je parlais, mais aussi parce qu'on a envie d'une souveraineté éditoriale, on a envie de faire découvrir, et on essaye d'éditorialiser ce qui ne se passe pas sur ces plateformes-là, évidemment.
Erwan Gaucher de Radio France, vous le retrouvez à 11h10 en temps universel dans l'atelier des médias sur RFI. Il est 4h30 à Bamako, même heure en temps universel. L'heure d'Afrique Matin avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
30 minutes consacrées à l'actualité du continent et on commence évidemment, Sébastien, par cette journée pour le moins mouvementée hier au Mali.
Une série d'attaques coordonnées a visé de nombreuses localités, Kidal, Gao, Kati ou bien encore Bamako, entre autres. Les hommes du JNIM et ceux du Front de Libération de l'Azawad revendiquent des actions menées en partenariat avec une convergence d'objectifs. Le gouvernement malien dénonce, lui, des attaques terroristes. Direction ensuite l'est de la RDC où le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, poursuit sa visite au Nord Kivu. À Goma, il a rencontré des cadres du groupe armé AFCM-23 qui contrôle la ville. Au Soudan, 6 mois aujourd'hui que les forces de soutien rapide se sont emparées de la capitale du Darfour Nord, El Fasher. Les témoignages des horreurs commises à cette occasion continuent de nous parvenir. Vous entendrez dans cette édition celui d'une rescapée. Madagascar traverse une période trouble. Ce sont les mots du colonel Michael Randjanirine lui-même. On ira donc sur la grande île pour voir de quoi il en retourne. Et puis une nouvelle vague de xénophobie dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Elle vise notamment des Ghanéens. Accra réagit vivement. Des terrains plus légers, l'actu sport également au programme. Bien sûr, comme tous les jours, vous êtes tous des bienvenus sur la Radio du Monde. Cela faisait longtemps que le Mali n'avait pas connu de telles attaques coordonnées, des attaques d'une telle ampleur. Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati et même la capitale Bamako, toutes visées simultanément par des éléments du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en partenariat avec ceux du FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Dans un communiqué hier soir en réaction, le gouvernement malien de transition a dénoncé des attaques terroristes, mais il assure avoir repris le contrôle de la situation dans toutes les localités concernées. Sans plus tarder, on fait le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
À Kati, près de Bamako, des coups de feu ont été entendus une partie de la nuit. Dans la capitale malienne, un couvre-feu de 72 heures a été décrété par le gouverneur de la ville. Un communiqué officiel fournit les premiers bilans des attaques, 17 civils et militaires blessés. D'après nos informations, ce chiffre ne correspond plus du tout à la réalité sur le terrain. Ce dimanche, de tristes nouvelles pourraient être annoncées. Le chef de la junte, le général Assimi Goïta, a été, lors des événements, exfiltré de Kati pour un endroit sûr. Il pourrait très rapidement réapparaître. Les attaques étaient coordonnées dans les 5 localités maliennes, Kati, Bamako, Sévaré, au centre, et Gao et Kidal au nord. Les djihadistes du JNIM affiliés à Al-Qaïda et les rebelles du Front de Libération de l'Azawad FLA ont mené ensemble les attaques. Leur objectif n'était pas probablement de prendre le contrôle de toutes les villes attaquées. À Kati, la principale opération fut l'attaque à l'aide d'un camion kamikaze du domicile du ministre de la Défense, le général Sadio Camara. À Gao, d'où, d'après nos informations, les assaillants sont repartis la nuit, c'était notamment pour couper la route à tout renfort vers Kidal au nord-est, dont la prise semble être le principal objectif de la coalition djihadiste rebelle du FLA.
Et après cette journée d'attaque au Mali, Serge Daniel, une série de réactions à l'international, bien sûr. L'ambassade américaine appelle notamment ses ressortissants à rester chez eux, alors que le Royaume-Uni déconseille aux citoyens britanniques de se rendre au Mali. L'Union africaine, pour sa part, condamne fermement ces attaques menées par des groupes armés. L'UA estime qu'elle risque, ces attaques, d'exposer les populations civiles à des dangers importants. Le président du Sénégal, enfin, Bassirou Diomaye Faye, condamne avec la plus grande fermeté également ces attaques. Attaque perpétrée contre la République sœur du Mali, dit-il. Il exprime au passage sa solidarité au gouvernement et au peuple malien. L'un de ses premiers chantiers, quant à lui, c'est d'œuvrer au respect du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Le nouveau patron de la MONUSCO, James Wan, poursuit sa visite de terrain. Après l'Itourie en milieu de semaine, il est au nord Kivu depuis vendredi, dans le chef-lieu provincial Goma, toujours sous contrôle de la FCM-23. Le chef des casques bleus déployé sur place a justement rencontré des responsables du groupe armé. Alors, quelle était la teneur des échanges? Élément de réponse ce matin sur RFI avec Patient Ligaudy.
Parmi les dossiers discutés, la situation humanitaire à Minembwe dans le sud Kivu. La FCM-23 a demandé la mise en place d'un pont aérien pour approvisionner les populations enclavées. Selon nos informations, les groupes armés précisent que ce dispositif ne dépendrait pas nécessairement de Goma. Des rotations pourraient être organisées depuis Kindu, Lubumbashi, Kisangani ou encore Bujumbura. Mais la faisabilité pose question. La MONUSCO n'est plus présente au sud Kivu depuis son retrait en juin 2024. À son arrivée à Goma, James Swan a insisté sur un préalable, la sécurité de l'espace aérien. Il évoque notamment les brouillages GPS et l'usage des drones qui rendent les vols risqués. De son côté, la FCM-23 accuse Kinshasa de poursuivre les bombardements dans la zone. Les groupes armés estiment que ces opérations doivent cesser et appellent les médiateurs de Doha et de Washington ainsi que les Nations Unies à faire pression en ces sens. Autre point évoqué, les blocages sur le protocole humanitaire entre Kinshasa et la FCM-23 ainsi que le rôle attendu de la MONUSCO dans le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Et sur ces mécanismes, un élément illustre les retards. À l'issue des discussions des Montreux en Suisse, les deux parties s'étaient donné 6 jours pour lancer les premières réunions. Le délai a expiré hier et aucune rencontre n'a encore eu lieu.
Et pendant ce temps, dans l'est de la RDC, Patient Ligaudy, les humanitaires n'ont de cesse d'alerter sur les déplacements de populations liées aux violences. Sur 113 millions d'habitants dans le pays, plus de 6 millions seraient actuellement déplacés. Un chiffre qui, selon un rapport des Nations Unies, classe la RDC au 5e rang des pays qui comptent le plus de personnes déplacées après le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et l'Ukraine. Le Soudan, justement, on le comprend donc, qui souffre de la pire situation humanitaire de ce classement onusien. Le Soudan vient d'entrer pour sa part dans sa 4e année d'une guerre civile dévastatrice, une guerre d'une violence inouïe, comme au moment par exemple de la prise de la capitale du Darfour Nord, El-Fachir, par les forces de soutien rapide du général Hemet Tis. C'était il y a tout juste 6 mois, le 26 octobre. Les exactions ont alors été manifestement très nombreuses, sur fond ethnique notamment. Et RFI continue de documenter ce drame. Écoutez le témoignage de Rahab Adam Barita. Elle est une rescapée et après ce jour noir, il lui a fallu une semaine pour rejoindre le camp de Tawila. Un périple, nous dit-elle, lui aussi cauchemardesque.
Le voyage a été très éprouvant. Certaines personnes sont mortes en route. Parmi ceux qui ont été maltraités, il y avait mon père. Alors qu'il avait déjà la jambe cassée, les forces de soutien rapide l'ont roué de coups et il en est mort. Ce qui était particulièrement douloureux, c'était les violences sexuelles qu'ont subies des filles mineures qui étaient avec moi. Ma sœur et ses deux filles m'accompagnaient. Mes nièces, qui ont 12 et 14 ans, ont été violées. Ces viols se sont répétés pendant les 3 jours où nous sommes restés dans la zone située entre El-Fachir et un endroit appelé Choukra. Mon frère était lui aussi avec nous. Il a été blessé à la jambe, puis nous avons atteint une autre zone et 6 jours plus tard, il est aussi décédé. Cette angoisse, elle reste toujours présente. Je la ressens vraiment. Et aujourd'hui, j'ai toujours peur que cela se reproduise.
Voilà le témoignage d'une rescapée de la prise d'El-Fachir au Soudan. Une vague d'arrestations à présent constatée hier sur la scène politique tchadienne. Les présidents de 8 formations politiques différentes ont été interpellés à N'Djamena, tous membres du GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, une coalition de partis d'opposition et de la société civile. Un dimanche électoral en Centrafrique, second tour des élections législatives, régionales ainsi que des élections partielles aujourd'hui, 2 mois après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Madagascar traverse une période trouble, ce sont les mots du colonel Michael Rangjanirine lui-même, le président de transition. Et les observateurs lui donnent manifestement raison au regard des faits. Dissension au sein de la présidence, arrestation répétée de jeunes militants de la Gen Z, annonce par les autorités de tentatives de coup d'État ou bien encore d'assassinat contre le président justement de la refondation. En somme, un climat de suspicion et de tension généralisée, mais la jeunesse, elle, observe cette situation d'un œil pour le moins circonspect. Cette jeunesse qui était à l'origine des manifestations ayant précédé le renversement du régime d'Andjradzoel. Na Antananarive, on fait le point ce matin sur RFI avec Sarah Teto.
La justice a rendu son verdict ce vendredi. Erzou Anjamanantene, figure du mouvement Gen Z arrêté il y a 2 semaines, a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire. Quant au sort de ses camarades, il demeure incertain. Docteur Karine et Rids sont toujours retenus à la brigade des recherches criminelles. Ces arrestations s'inscrivent dans un contexte sensible. La ministre de la Justice a évoqué 3 dossiers ouverts. Tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État, tentative d'assassinat du chef de l'État. Des affaires qui, selon les autorités, justifieraient la vague de garde à vue. Dans une lettre ouverte adressée à la ministre, le mouvement Gen Z dénonce un traitement sélectif des dossiers. Ce vendredi, le Premier ministre a de son côté tenté de jouer l'apaisement. « Les ultimatums que vous posez ne sont pas opportuns », a-t-il affirmé aux représentants de la Gen Z. Ça détériore le dialogue et met son interlocuteur sous pression, alors que nous sommes du même côté. Donnons-nous plutôt des rendez-vous. » Fin de citation. Une situation qu'Amnesty International suit de près. L'organisation dénonce harcèlement et intimidation pour réduire au silence militants et société civile. Elle exige la libération immédiate de tous les membres de la Gen Z encore détenus. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
En Afrique du Sud, une nouvelle poussée xénophobe constatée dans la ville de Durban sur la côte sud inquiète jusqu'au Ghana, où le ministre des Affaires étrangères a appelé Pretoria à protéger les ressortissants étrangers. En réaction, le ministère de la police sud-africain a promis lui une réponse ferme, Joséphine Klockner.
Des dizaines de vidéos circulent depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. On y voit à Durban principalement des groupes de militants du groupe March & March qui affirment s'opposer à l'immigration illégale, prendre à partie des personnes qu'ils identifient comme étrangères. Mike Ndlovu, représentant de CACS, une coalition d'organisations opposées à la xénophobie.
Les manifestants attaquent les migrants. On en voit aussi qui procèdent à des arrestations de personnes qu'ils soupçonnent être sans papier. Ils pillent aussi les magasins tenus par des étrangers.
Plusieurs groupes xénophobes ont ces derniers mois illégalement bloqué l'accès à des écoles et cliniques aux immigrés. À Johannesburg, Mutombo, mère de 12 enfants, qui a fui le Kivu en 2004, vit dans la peur. Leur appartement dépouillé, aux portes et fenêtres brisées, porte encore les traces de l'attaque d'une foule xénophobe en juin 2025.
Quand je suis arrivée, ils étaient là, des centaines de personnes. Ils étaient en train de fouetter mes enfants. Ils les frappaient encore et encore et ils ont violé une de mes filles.
Alors que d'autres manifestations contre les migrants sont prévues, notamment à Johannesburg et Pretoria, les plus de 3 millions d'étrangers que compte la nation arc-en-ciel espèrent une réaction plus forte des autorités. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Johannesburg, où il est 6h passé de 41 minutes, tout comme ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
RFI Matin, ce sera avec Clotilde Dumay dans un peu plus de 18 minutes. Mais avant cela, comment effacer le traumatisme d'une attaque qui a coûté la vie à 7 de vos collègues sur votre lieu de travail? Ce sera le sujet de notre reportage au Parc National de Lupemba, une aire protégée de RDC où une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner le personnel visé par une attaque. Il y a quoi sur les réseaux des 18-25 ans? Notre chronique du dimanche qui nous emmènera à la rencontre d'un jeune Mexicain ce matin. Et puis 100% création, bien sûr, coup de projecteur sur Iman Aïssi, le tout premier créateur de mode d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le calendrier officiel de la haute couture parisienne. Mais d'abord, c'est l'heure des sports. Et c'est avec vous, Pauline Guillou, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Du basket, pour commencer avec la deuxième journée de la balle, la Basketball Africa League.
Oui, deuxième journée hier à Rabat de la conférence Sahara, deuxième défaite en deux matchs pour les Ivoiriens de la JCA Kings, battus hier par les MacTowns Flyers du Nigeria. Score final 76-68. En revanche, deuxième victoire en autant de matchs pour les Tunisiens du club africain, vainqueur hier soir face aux Égyptiens d'Al Ahly sur le fil, 69-68. Mmh. À suivre aujourd'hui, les Sénégalais de l'AS Séville de Dakar face à Al Ahly, justement, avec des Dakar Carois battu pour leur premier match pour tenter de rattraper le coup. Rendez-vous 14h temps universel. Et l'autre match à suivre de cette troisième journée, c'est entre les MacTowns Flyers et le FUS Rabat, 17h.
C'est bien noté. Mais pour le moment, on parle football avec vous, Pauline. Et la RDC est déjà tournée vers la Coupe du Monde.
Et oui, ça commence dans 52 jours pour les Léopards face au Portugal. Un gros match à venir pour entamer ce mondial pour la RDC qui aura bien besoin de ses supporters à Houston, au Texas. Et ça tombe bien puisque la billetterie a ouvert hier. 5000 places ont été mises en vente pour les supporters des Léopards via le site de la Fédération.
Mais avant le Mondial, Pauline, élection majeure du côté de la RDC, justement.
Oui, c'est le 20 mai prochain que la Fédération congolaise de football doit élire son nouveau président, marquant la fin de 3 années de transition. 9 candidats en lice, parmi lesquels Véron Mossango-Omba, ancien secrétaire général de la CAF, mais aussi les anciens joueurs Aziz Moukoukoula ou Chabani Nonda, ex-international notamment passé par Monaco, Rennes ou l'AS Rome. Une candidature qui n'est d'ailleurs pas passée inaperçue, Olga Massangou.
C'est en solitaire qu'il a officialisé sa candidature à la présidence de la FIKOFA, marquant un tournant inédit dans ce processus électoral.
C'est avec plaisir, avec plein d'émotions, que je m'exprime ce jour dans la maison des footballeurs Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football.
Chris Chabani Nonda a pris tout le monde de court. L'ancien capitaine des Léopards, âgé de 49 ans et porteur d'un projet, le changement tant attendu à la Fédération.
Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence. Et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici. Il y a trois axes, le développement du football à la base, aussi la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter.
Une candidature surprise d'un Nonda très discret et éloigné du monde du football depuis qu'il a raccroché les crampons, mais très bien accueilli par les supporters congolais qui l'ont surnommé le candidat du peuple, ce qui lui donne une cote inattendue de popularité et qui bouscule les autres prétendants. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
Voilà donc pour le football, on parle maintenant d'athlétisme, Pauline.
Oui, départ ce matin du marathon de Londres avec deux athlètes africains pour défendre leur couronne. L'éthiopienne Tixta Sefa chez les femmes, départ 7h05. Et le Kenyan Sébastien Savé chez les hommes, 7h35.
Merci beaucoup, c'est bien noté. On compte sur vous et sur le service des sports pour nous donner le résultat.
Évidemment.
Merci beaucoup, Pauline. À tout à l'heure. Pour le moment, 4h45 en temps universel. Restez avec nous. On jette un coup d'œil sur l'actualité internationale. Et Donald et Melania Trump, tout d'abord, qui ont été évacués hier du dîner des correspondants à Washington après qu'un homme armé d'un fusil a tenté de forcer la sécurité en tirant sur un agent du Secret Service. Le président états-unien et la première dame sont sains et saufs. Le tireur présumé, lui, a été arrêté. En conférence de presse, Donald Trump a décrit ce tireur justement comme un loup solitaire et un cinglé. Ce sont ses mots. Le ministre iranien des Affaires étrangères retournera au Pakistan ce soir après sa visite à Oman et avant de se rendre en Russie. Abbas Araghchi a quitté Islamabad après que Donald Trump a annulé l'envoi de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner. Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont visé hier soir au moins 4 localités du sud du pays après des attaques qui avaient déjà fait auparavant 6 morts plus tôt dans la journée selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné hier à l'armée de frapper avec force le Hezbollah pro-iranien au Liban justement à la suite de ce que l'armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu. Et puis en Colombie, un attentat à la bombe a fait au moins 14 morts sur une route du sud-ouest du pays, secouée par une série d'attaques à un peu plus d'un mois de la présidentielle. En pleine campagne dominée par les questions de sécurité, les autorités accusent la principale dissidence des FARC qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016. Comment se remettre d'une attaque justement? Quel accompagnement psychologique? C'est l'objet de notre reportage du jour. En RDC, près de 2 mois après l'attaque par des miliciens du quartier général du parc national de Lupemba, une aire protégée pour laquelle 7 employés ont donné leur vie. Et pour tous ceux qui restent, pour les éco-gardes et le personnel civil qui ont été confrontés à cette violence, eh bien, les responsables du parc ont mis en place une cellule de soutien et de suivi pendant plusieurs semaines pour se libérer du traumatisme. C'est un reportage de Denise Maéo.
D'accord. Au cabinet du psychologue Naomi Luembwe, une jeune employée du parc Lupemba affiche un air détendu. Mais derrière son sourire, le souvenir de l'attaque est encore vif.
C'était un mardi, 3 mars, vers 5h40. Ma colloque s'est réveillée, elle avait déjà ouvert la porte et elle avait déjà mis la musique. Après, j'ai entendu les premiers coups de feu. Et après un moment, ils ont pris maintenant les contrôles complets du camp. Il y a eu encore des coups de feu en rafale.
Cette jeune dame d'une vingtaine d'années se rappelle de tous les moments de peur et parfois de découragement, comme si c'était hier.
Ma plus grande peur a commencé quand on m'avait fait sortir de la maison par les groupes rebelles. C'est là où j'ai commencé à vivre mon pur cauchemar, à voir nos collègues couchés au sol sans vie.
Beaucoup d'autres employés du parc Lupemba, dont des éco-gardes, ont été confrontés à cette violence brutale, mais à des degrés différents. Ebenezer Kamangou est le psychologue qui les a suivis.
Dans un premier temps, on les écoute. Ensuite, nous procédons par des évaluations. Il y en a qui, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, n'étaient pas traumatisés. Il y a d'autres qui étaient extrêmement traumatisés et qui ont manifesté plusieurs troubles pour lesquels on a planifié la prise en charge.
Une prise en charge qui donne la voie vers la reconstruction, reconnaît Naomi Luembwe.
Et à chaque fois que je sens que la peur se réveille en moi et je pratique ces exercices que le psy m'avait donné, il y a de la musique douce et des exercices de respiration et ça m'aide beaucoup à me sentir mieux.
Malgré les quelques progrès enregistrés par les employés, ils sont encore fragiles. Marie est l'infirmière au parc Koupemba qui a tout organisé.
L'accompagnement psychologique est toujours en cours. On est en train de faire le tout moyen possible pour que les morales puissent être remontées et pour qu'on aille encore travailler comme d'habitude.
Pour l'heure, certains agents du parc ne sont pas encore prêts à y retourner. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
Notre reportage du jour sur le difficile travail de reconstruction après une attaque. Un reportage à retrouver, à partager, bien sûr, sur Internet. Et comme tous les dimanches, c'est le moment de retrouver Y'a quoi sur tes réseaux? Notre chronique réalisée en collaboration avec 7 jeunes à travers le monde. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils scrollent chaque semaine pour nous raconter ce qu'ils voient sur leurs réseaux sociaux, ce qui les fait rire, ce qui traverse leur génération. Ce matin, direction le Mexique pour parler caricature politique avec Diego. Chronique signée Coralie Pierret.
Un peu reggaeton, ça vient d'une vidéo qui est restée à la une pendant des semaines sur le TikTok de Diego. Je la décris. 3 jeunes qui dansent, 2 avec des fausses calvities et des moustaches. Au centre, une jeune femme grimée en présidente. Et la suite, c'est Diego qui l'explique.
C'est devenu même un trend. En plus, le rythme de reggaeton, c'était le même rythme qu'une chanson qui s'appelle Reggaeton Champagne ici au Mexique. C'est une chanson hyper connu mais hyper vulgaire.
La voix dans la vidéo, c'est pas celle d'une chanteuse célèbre, c'est celle de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. Les TikTokers ont juste repris un de ses discours sur l'éducation et l'ont mis en musique.
À ce moment-là, on dirait qu'elle est en train de chanter un peu, mais il n'y a pas vraiment un message derrière qui est important. En fait, c'est simplement pour faire un peu le ridicule de la présidente de la République de la manière dont elle parle.
Et c'est pas la seule à être moqué sur les réseaux mexicains. Diego me parle d'une autre tendance, la traîne du moment, qui touche les fils de l'ancien président.
Nepo baby, mantenido, hipócrita, gordo, inútil.
Ce qu'on entend, c'est un présentateur télé qui reprend en plateau les insultes qui ont circulé contre eux sur tous les réseaux. Et puis, il y a cette vidéo, générée par une intelligence artificielle. On voit un personnage qui représente l'un des fils de l'ancien président, lunettes de soleil, verre de champagne à la main sur un yacht, avec une tête en forme de flan.
El Chapo Flan, c'est un dessert mexicain typique, c'est un flan au chocolat. Mexique, en vrai, les vidéos comiques sur les réseaux, c'est soit sur la politique, soit sur la culture populaire. C'est dans le naturel du Mexique de faire des choses comiques.
Alors quand l'un des fils de l'ancien président a réagi en se disant victime de harcèlement numérique, qu'il a demandé directement à Grok, l'intelligence artificielle de X, de faire des excuses publiques, ça a semblé bizarre pour Diego. D'autant qu'il y a au Mexique une tradition ancienne de caricature politique.
Finalement, moi je trouvais vraiment ridicule qu'il se batte avec une intelligence artificielle. C'est un peu comme si tu essayes de te battre avec un robot auquel tu te demandes de faire du spaghetti, il fait du spaghetti. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Si tu demandes qu'elle fasse une insulte envers une personne, il va le faire.
Et sur TikTok, on retrouve le fils de l'ancien président se battre contre une intelligence artificielle dans des vidéos façon combat de boxe.
Après cette vidéo, j'ai découvert aussi que sur le même compte, il publiait des vidéos avec Trump et Maduro. C'était très bien.
Là, Diego me dit qu'un quart des contenus de son fil porte sur Trump. Alors je lui demande ce qu'il pense de ces vidéos et puis comment il vit les menaces du président américain sur son pays.
Trump, c'est tellement un personnage médiatique et qui dit tellement de choses qui sont, dans la majorité des cas, un peu surréalistes, que c'est un peu préoccupant qu'il y ait une menace de faire une intervention militaire ici au Mexique.
Diego, on le retrouve bientôt dans un prochain épisode. Il y a quoi sur tes réseaux? À la semaine prochaine.
Il y a quoi sur tes réseaux, Coralie Pierret? Il y a aussi RFI. Et n'hésitez pas à nous y rejoindre, bien sûr, sur la page live de YouTube, par exemple.
100% création rencontre ce dimanche avec Iman Aïssi, danseur, mannequin, écrivain. Il est surtout le premier créateur de mode d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le prestigieux calendrier officiel de la haute couture parisienne, devenant ainsi grand couturier. C'était en 2020. Et son histoire, ses inspirations, ses combats pour la valorisation du patrimoine textile africain sont justement à l'honneur en ce moment au musée du Quai Branly à Paris avec l'expo Africa Fashion. C'est Maria Afonso qui nous les présente.
Quand on parle du luxe, c'est quoi le luxe? À mon avis, c'est d'abord nous-mêmes. C'est l'acceptation de soi-même, la mise en valeur de son histoire, dans le respect, avec les choses de base qu'on met en valeur et qu'on respecte. Et c'est de là aussi que les autres vont nous respecter.
Iman Aïssi, grand couturier.
L'argent va arriver après parce qu'on a besoin de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. La culture aussi, le respect de soi-même aussi, c'est le pouvoir.
Né à